La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes en l'an 1962 avant notre ère, le décor est celui de l'Égypte ancienne. C'est l'heure du souper, la nuit est venue, fatigué, le pharaon Amenemhat Ier s'est étendu sur son lit. Il commence à s'endormir quand des armes destinées à sa protection se retournent contre lui. Le souverain tente de se défendre, mais seul, bien sûr, il est vaincu. Voilà ce que rapporte de ce tragique événement le comte de Sinoué, l'un des plus célèbres textes égyptiens. Le fils du roi Sésostris est loin, il apprendra la nouvelle à son retour, et c'est dans cette atmosphère de complot qu'il succédera à son père.
En 1386 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne fête déjà 2000 ans d'une histoire qui aura vu défiler quelques 86 pharaons.
Un jour dans l'histoire.
Et pour évoquer l'assassinat des pharaons avec nous aujourd'hui, David Laurent. Bonjour David Laurent.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, et collaborateur scientifique à l'ULB. Vous avez écrit une thèse autour de cette problématique, de cette thématique de l'assassinat des pharaons. Alors conspirer contre pharaon, parvenir à intenter à sa vie est une chose rare dans l'histoire de l'Égypte ancienne. On a des chiffres sur ces événements ?
Alors sur à peu près 26 siècles de dynastie égyptienne, on a deux cas véritablement attestés, puis un troisième plus douteux. Un premier cas à la fin de l'Ancien Empire, au début de la 6e dynastie, un complot de harem dont on sait très très peu de choses. Et puis le cas qui va nous occuper aujourd'hui, ouais, l'assassinat d'Amenemhat Ier, on est aux alentours de 1950 avant Jésus-Christ. Et puis un autre cas très bien documenté aussi, avec d'autres types de sources, sous le règne de Ramsès III, à la fin de son règne. Il est assassiné aussi dans un complot de harem, et on est là aux alentours de 1153 avant notre ère.
Alors on va voir aussi avec vous qu'il faut évidemment beaucoup se méfier des interprétations qu'on peut faire des textes, alors notamment sur la datation. Moi j'avais la date de 1962, vous nous dites 1950, c'est très flou, enfin très difficile d'avoir une date exacte bien sûr.
Alors c'est en effet très difficile, d'une part parce que lorsque chaque souverain monte sur le trône, on recommence un compute d'années à partir de l'unité, 1, 2, 3, et puis tout simplement parce qu'on n'a pas de réelle compatibilité entre le calendrier pharaonique et puis le calendrier grégorien ou julien ou romain. Donc c'est quelque chose de relativement difficile. On peut éventuellement s'aider de phénomènes héliaques, notamment l'observation du lever d'une certaine étoile à l'horizon, mais là encore, faire le lien entre une observation astronomique et le calage sur un calendrier absolu, ça reste très compliqué.
Alors nous allons nous intéresser donc à la 12e dynastie avec les règnes des pharaons Amenemhat Ier et Sésostris Ier. On a déjà évoqué Sésostris ici il y a quelques temps. Alors Amenemhat règne donc aux alentours de 1950, un petit peu avant, enfin avant puisque c'est cette année-là qu'il mourrait. Premier roi donc de cette 12e dynastie qui est une des plus prestigieuses, dit-on, de l'histoire de l'Égypte. Pourquoi ?
Assurément, c'est une des plus prestigieuses dynasties de l'Égypte ancienne, même si elle reste très mal connue du grand public. C'est une période où l'on a ce qu'on appelle une forme de classicisme dans les arts, dans la littérature, qui va très durablement inspirer l'époque plus connue du Nouvel Empire, avec les pharaons Amenhotep, les pharaons Ramsès. C'est une période qui revient aussi à un certain nombre de standards architecturaux, comme les pyramides pour les complexes funéraires des rois. C'est donc une période très florissante au niveau des arts, des pratiques artistiques. Et puis, d'un point de vue économique, c'est aussi une période qui va étendre l'influence de l'Égypte sur une partie du couloir syro-palestinien, de très nombreux contacts avec la côte levantine, et puis aussi étendre une puissance à la fois économique et politique sur la Nubie, toute la zone concernée actuellement par le lac Nasser, et puis une certaine influence jusque dans l'actuel Soudan, le nord du Soudan.
Alors, il n'est pas un pharaon de la 11e dynastie, on l'a dit, mais à quoi sont dues ces ruptures de dynastie ? Pourquoi pense-t-on de l'une à l'autre ?
Alors, l'essentiel des dynamiques de changement de dynastie est dû à des changements de famille. Ce qui identifie fondamentalement une dynastie, c'est avant tout le lieu où s'exerce le pouvoir et la continuité dans une famille. Et ici, avec Amenemhat Ier, on a une double rupture. D'une part, très clairement, Amenemhat Ier n'est pas le successeur de Mentouhotep IV en termes de famille, ça n'est pas son fils. Et par ailleurs, le lieu où il va exercer son pouvoir, à partir de la, disons, première décennie de son règne, est différent de la ville de Thèbes. Il va déménager sa capitale dans le nord de l'Égypte pour se rapprocher de l'antique capitale Memphis.
Alors, il y a deux documents importants qui permettent de comprendre comprendre l'histoire d'Amenemhat et de son fils Sésostris, ce sont donc l'enseignement d'Amenemhat et le texte, la biographie ou le conte de Sinoué. Qu'est-ce que c'est que ces documents ?
Alors, ce sont des documents qui sont très connus parce qu'on en possède de très nombreuses copies, complètes ou partielles, sur différents supports, les papyri, mais aussi les ostracas, donc soit des tessons de poterie, soit des éclats de calcaire, et ce, à peu près à toutes les époques, à partir de leur création, donc dans le courant du Moyen Empire, et puis aussi dans le courant du Nouvel Empire. Donc, on a une documentation sur à peu près 1000 ans, donc des textes bien connus et qui font l'objet de recopiages réguliers par les scribes, qui font partie de l'apprentissage des scribes, donc des classiques. Ça, c'est pour les sources. Maintenant, le problème, ce sont des sources qui sont avant tout littéraires, disons, en tout cas qui ont un caractère littéraire dans leur écrit, mais qui ne sont pas des écrits historiographiques au sens de l'histoire et de la critique des sources. Donc, il faut être prudent, il y a une manipulation, une éventuelle distorsion entre des faits historiques latents dans le propos, et puis la manière dont ces faits sont rendus et travestis pour faire passer un message.
Ce ne sont pas des paroles dictées par le pharaon. Dans ces textes, notamment Sinoué, le pharaon parle à la première personne.
Oui, très clairement, ce sont des documents qui font passer l'auteur principal comme étant vivant, alors que dans le cadre de l'enseignement d'Amenemhat Ier, c'est un écrit posthume, c'est Amenemhat Ier qui s'exprime depuis l'au-delà pour son fils. Et pareil pour Sinoué, on a les traces de son enterrement et des conditions de son enterrement, et pourtant il présente l'ensemble du texte comme étant de son vivant. Donc on a une rupture avec la logique chronologique.
L'assassinat des pharaons dans l'Égypte ancienne, nous sommes avec David Laurent.
L'Égypte antique. Saga captivante d'une civilisation qui s'étend sur 18 dynasties ou lignées royales. L'Égypte des premiers pharaons vénère tout un panthéon de dieux animaux, en même temps qu'elle entretient une croyance complexe en la vie après la mort.
Un jour dans l'histoire.
Extrait d'un documentaire, Les grands pharaons d'Amenhotep III à Séti Ier. Nous, on s'intéresse avec David Laurent à Amenemhat Ier, qui est donc un de ces pharaons assassinés, deux ou trois sur ces 26 siècles.
26 siècles presque, oui.
Alors, on l'a dit, il est le fondateur de la 12e dynastie, c'est un ancien vizir. Est-ce que c'est une chose courante dans l'Égypte ancienne qu'un vizir devienne pharaon ?
Non, pas tellement. Et il s'agit là, avant tout, de l'hypothèse la plus logique. On a un vizir qui s'appelle Amenemhat sous le règne de Mentotep IV, le prédécesseur d'Amenemhat Ier, et la logique veut que cet Amenemhat vizir soit en quelque sorte le futur Amenemhat roi. Mais on n'a pas de preuve directe de que l'un est égal à l'autre.
On sait peu de choses de sa famille. Il a un fils, Sésostris, qui deviendra Sésostris Ier, à part ça.
À part ça, on ne sait pas grand-chose. On sait que son propre père s'appelait Sésostris, donc il y a une alternance de père en petit-fils. Et sinon, pas grand-chose. On ne connaît même pas les frères et sœurs de Sésostris.
Alors, c'est une période de prospérité pour l'Égypte, vous le disiez à David Laurent. C'est aussi, au niveau religieux, un basculement dans l'histoire égyptienne.
C'est un relatif basculement dans la mesure où l'Ancien Empire, jusque-là, mettait en évidence avant tout le caractère solaire de la royauté. Et on va voir émerger un nouveau souverain parmi les dieux, qui est le dieu Amon, Amon-Ré, avec un syncrétisme qui récupère la divinité solaire Ré de l'Ancien Empire. Et Sésostris Ier, le successeur d'Amenemhat Ier, va construire le premier très grand temple à Karnak et qui sera respecté jusque dans le courant du Nouvel Empire.
Et Amenemhat, ce nom a à voir avec Amon, c'est ça ?
Oui, très clairement. En fait, le nom Amenemhat, c'est Amon est en tête.
Alors, quels sont les ennemis extérieurs de l'Égypte ?
Alors, à l'époque, les ennemis de l'Égypte sont quelques tribus nomades dans le désert libyen, donc à l'ouest de la vallée du Nil, et essentiellement des populations situées en basse et haute Nubie, des populations de type africaine, soudanaise, appartenant de près ou de loin au royaume de Kouch, établi justement à hauteur de la 3e-4e cataracte, donc bien plus au sud de l'Égypte.
Est-ce qu'on peut envisager que des ennemis extérieurs auraient pu tremper dans le complot ?
Alors, a priori, oui, mais la documentation que l'on possède, malgré les mises en garde qu'il faut faire quant à leur interprétation, laisse plutôt penser à un entourage proche du roi comme étant les comploteurs.
Alors, justement, au niveau intérieur, de qui doit se méfier Amenemhat ?
Alors, d'après ce qu'il laisse entendre à son fils, il devrait se méfier de tout le monde. Mmh. C'est ce que dit le texte de l'enseignement, qu'il faut se méfier même de son frère, ne connaître aucun ami, ça ne sert à rien. Et même les personnes que l'on aide et que l'on héberge au sein du palais sont susceptibles de se retourner contre le roi. Donc, Pharaon doit se méfier de tout le monde. Alors là, en l'occurrence, les personnes les plus probables comme étant les comploteurs, même si on ne possède absolument pas leur nom dans la documentation, c'est probablement des gens issus d'une branche secondaire de la famille qui voulait placer un prince non héritier sur le trône à la place de ses Austrices premiers.
Alors, on reviendra à ces comploteurs tout à l'heure. On avance pas à pas. Quels sont les rapports entre Amenemhat et son fils, ses Austrices ?
Eh bien, on sait très peu de choses sur la jeunesse de Sésostris avant qu'il ne soit roi, et l'essentiel de la documentation a été créé après son avènement dans le but de légitimer son accession au trône. Donc on a un problème de fiabilité des sources. Mmh. Ce que Sésostris fait dire de lui est évidemment très très orienté, même sur sa jeunesse, où il dit qu'il est destiné, choisi par les dieux, mais c'est évidemment une vision a posteriori.
Est-ce qu'il a une implication dans la gestion déjà, lorsque son père est pharaon, dans les affaires de l'Égypte, Sésostris ?
Alors, la biographie de Sinoué, en tout cas le document qu'on considère comme tel, dit que généralement Sésostris menait la politique de son père à l'extérieur, tandis que Amenemhat Ier restait au palais et gérait plutôt les affaires intérieures de l'Égypte.
C'est courant, une co-gérance du royaume ?
Une co-gérance, une implication du fils héritier présomptif aux activités de l'État n'est sans doute pas, surprenante. Par contre, c'est vrai que c'est une période où l'on considère qu'il y a généralement une association de fait et orientée prévue entre un souverain et son héritier sous la forme de co-régence, où tous les deux peuvent avoir un pouvoir identique à la tête du pays. Et ce principe de co-régence est par contre lui battu en brèche par des études plus récentes.
C'est un long règne, Amenemhat.
C'est presque 30 ans, oui, c'est très très long pour l'Égypte ancienne.
Alors la contestation de la succession, c'était chose courante, sans aller jusqu'à l'assassinat, on l'a dit, ça c'est rare, mais est-ce qu'il était courant qu'on conteste une succession ?
A priori non, dans la mesure où Pharaon est quand même perçu comme étant une forme de dieu sur Terre. Et c'est sûr que les pharaons du Moyen-Empire étaient tout sauf des personnages extrêmement rigolos et on n'y approchait pas comme cela. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la documentation que l'on possède est essentiellement une documentation issue du palais lui-même et il est fort peu probable que le palais parle des troubles contre Pharaon.
Ouais. Et d'ailleurs, dans les textes, les documents que l'on a retrouvés, c'est assez amusant de voir Sésostris. Enfin, on lui fait dire qu'au fond, c'est tellement une évidence pour lui d'être choisi, parce qu'il est choisi des dieux directement.
Oui, c'est ça, en fait. Avant même qu'il ne sorte des jambes de sa mère, des cuisses de sa mère, dit le texte, il était déjà destiné à saisir le pays, à s'emparer du palais. Donc il y a une véritable prédestination du souverain, même tout petit, même lorsqu'il est adolescent, il est considéré comme étant le dépositaire du pouvoir royal.
Et cette vision des choses, est-ce qu'elle traverse les classes sociales ? Je veux dire, c'est une évidence aussi pour l'homme de la rue, il y a un choix divin dans...
Là, on touche du doigt une des très grandes difficultés qui est de savoir comment le peuple, quel que soit son niveau de stratification, s'il est tout en bas de l'échelle ou tout en haut, comment le peuple perçoit l'idéologie du souverain. On sait ce que pense le souverain de lui-même ou ce qu'il fait faire penser, mais on ne sait pas du tout si les gens acceptent ce qui est émis comme discours.
Amenemhat va être assassiné, on l'a dit. On va maintenant se focaliser sur cet événement tragique avec David Laurent.
Nous sommes en 1153 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte des pharaons. Ramsès III regagne son palais à Thèbes pour une grande fête. Mais ces festivités ont une face cachée. Ce qui va se produire changera le cours de l'histoire. Ramsès III est lui-même un écheveau de contradictions. C'est un seigneur de la guerre qui a su repousser les tentatives d'invasion dans son royaume. Pourtant, il ne soupçonnera jamais que ses ennemis les plus à craindre sont tapis dans son entourage immédiat.
Un jour dans l'histoire.
Ramsès III, donc l'un de ces pharaons assassinés. On aura peut-être tout à l'heure quelques secondes pour évoquer ce cas avec vous, David Laurent. Là, on va zoomer sur Amenemhat Ier. Alors, qu'est-ce qu'on sait de son assassinat ? On sait qu'il était isolé dans son palais à ce moment-là. Son fils se trouve où ?
Alors, son fils est précisément en mission loin du palais pour combattre des populations situées dans le désert libyen à l'ouest du delta. Donc, Pharaon est seul et par ailleurs c'est une période où le vizir lui-même est en train de guerroyer en Nubie avec l'essentiel des troupes de l'Égypte. Donc il est véritablement tout seul avec seulement sa garde rapprochée.
Alors il n'est pas certain, selon certaines sources, que le pharaon était le seul visé.
Oui, Amenemhat Ier a déjà 30 ans de règne lorsqu'il se fait assassiner. Si il est bien le vizir de Montotep IV, il a déjà une carrière relativement importante avant de devenir roi. Et en fait, c'est peut-être même plus Sésostris Ier qui est visé par cet attentat, en tout cas sa place sur le trône, puisque la vie elle-même d'Amenemhat Ier.
Alors, est-ce que le vizir, par exemple, pourrait être faire partie des comploteurs ?
Alors, c'est peu probable dans la mesure où le vizir, qui s'appelle Antefoker, continue à exercer de manière extrêmement importante sous le règne de Sésostris Ier jusqu'à l'an 24. On voit mal Sésostris Ier conserver un des principaux protagonistes de l'assassinat de son père pendant 24 ans à côté de lui.
Alors on l'a dit, vraisemblablement une branche parallèle de la famille de Sésostris. Une femme, on dit, une femme aurait un rôle important dans cette assassinat.
C'est ce qu'Amenemhat laisse entendre en s'interrogeant de manière rhétorique. Est-ce que l'on a permis que des femmes engagent des mercenaires ? Est-ce que l'on engage les futurs rebelles au sein du palais ? Donc très clairement, Amenemhat Ier pose dans ce texte qui est très nettement orienté des questions à savoir s'il est normal en fait que l'ennemi, plutôt que d'être à la périphérie de l'Égypte, vienne du cœur même du palais.
Le pharaon qui avait plusieurs épouses.
Alors manifestement oui, mais ça reste des choses qui sont très mal documentées. On sait qu'il existe une institution qui s'appelle le harem royal, très loin de la vision des orientalistes du 19e siècle occidental, mais c'est donc une institution qui accueille un certain nombre de femmes qui peuvent avoir des enfants plus ou moins légitimes avec le souverain.
Et donc on imagine que chacune a envie pour son fils de la meilleure destinée.
Ce serait sans doute très naturel.
Alors ce harem, quand même, un mot, c'est effectivement pas ce harem que l'on imagine avec des très jolies filles au service d'un chef, d'un roi. Ici, c'est quoi ce harem ?
Ce harem est très mal documenté en fait pour cette époque-là. Et à part quelques titres de responsables du harem, en fait, on en connaît très peu de choses. Et même sa consistance architecturale n'est pas du tout connue. On n'a pas de traces de ce harem dans l'archéologie.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont s'est déroulé cet assassinat ? Je le disais, apparemment, il aurait été le soir, la nuit, dans sa chambre.
C'est comme ça, en tout cas, que c'est présenté, toujours dans cette tournure un petit peu a posteriori, en vue de faire comprendre à Sésostris Ier qu'il doit se méfier de son entourage. Alors, il y a un très important débat sur savoir si le texte décrit véritablement un assassinat, si Amenemhat Ier est véritablement mort lors de cette première tentative ou pas. Mais ce que l'on peut essayer de comprendre, c'est qu'un certain nombre de personnes qui étaient censées protéger le souverain vont faire en sorte que les armes destinées à la protection de Pharaon se retournent contre Pharaon. Pharaon ne parvient pas à se défendre, il dit lui-même « seul contre l'ennemi ». Celui qui n'a pas de protecteur ne peut survivre et donc de fait il meurt.
Autre débat d'égyptologie, il y aurait la possibilité de plusieurs tentatives d'assassinat.
Oui, certains considèrent que ce dont parle l'enseignement d'Amenemhat Ier est en réalité la raison de l'instauration d'une corrégence, avec le problème du fait que la corrégence n'existe pas vraiment, et donc serait la traduction d'une première tentative d'assassinat aux alentours de l'an 20, et que seul Sinoué parlerait de l'assassinat réel en l'an 30 d'Amenemhat Ier.
Alors il faut bien comprendre que cette tentative d'assassinat, c'est le sacrilège suprême dans cette Égypte ancienne.
C'est un sacrilège suprême. La personne du roi est une personne qui n'appartient pas à l'humanité normale. C'est pas tout à fait un dieu, mais ça n'est plus du tout un homme non plus. Donc c'est vraiment s'attaquer à un personnage hors temps et hors essence humaine.
Ça veut dire qu'il faut une certaine dose de courage de la part des comploteurs.
Oui, très certainement, sauf si eux savent que Pharaon est moins divin qu'il ne prétend l'être.
Alors ce qui est sûr, c'est que ce complot va échouer.
Très clairement, puisque l'héritier présomptif, en tout cas celui qui est présenté partout dans la documentation comme étant l'héritier présomptif, eh bien c'est lui qui va monter sur le trône.
Sésostris Ier, donc qui succède à son père, n'avait aucune raison de comploter contre son père.
Ça a été un temps avancé, mais en réalité c'est une hypothèse qui ne repose sur rien, si ce n'est la possibilité dans l'absolu que ce soit un des protagonistes.
Nous sommes avec David Laurent.
On t'avait dit de ne jamais revenir en Égypte. Pourquoi as-tu désobéi ?
On dit que celui qui un jour a bu de l'eau du Nil ne peut plus étancher sa soif ailleurs.
Je sais pourquoi tu es là. Les prêtres des anciens dieux veulent se débarrasser du pharaon. Ils racontent qu'il est fou et qu'il faut lui ouvrir le crâne. Alors ce serait tellement facile de faire glisser la lame.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Extrait du film L'Égyptien, réalisé par Michael Curtis. Nous sommes avec David Laurent donc pour évoquer ces assassinats de pharaons, assez rares, hein, on l'a dit, dans l'Égypte ancienne. Alors, Sésostris, le fils premier, donc monte sur le trône d'Égypte. Il succède à son père. Ce sont des conditions tragiques. Alors, on imagine que ça doit être extrêmement pesant, le climat qui l'accompagne.
Ah, si on en croit, en effet, Amenemhat Ier, Sésostris Ier ne peut faire confiance à personne. Il doit être tout seul. Et quelque part, l'absence d'indices sur qui sont les comploteurs, ce qu'ils sont devenus, est en soi peut-être aussi révélateur de la chape de plomb qui a dû tomber à un moment donné sur l'Égypte, à cause de Sésostris Ier qui a dû rétablir de manière très très forte son autorité.
On parle de guerre civile ?
Alors, c'est ce que certaines sources laissent entendre, même si elles sont éventuellement mal datées, à placer en d'autres moments de l'histoire égyptienne. Mais disons que la documentation est tout sauf univoque et en tout cas tout sauf précise. Et donc on reste dans une période éventuellement décrite comme une période de peur du palais qui peut être en effet le reflet d'une lutte entre certaines factions à l'intérieur de l'Égypte et l'autorité pharaonique.
Parce que vous l'avez dit, il va devoir quand même légitimer son autorité, Sésostris. Ça veut dire qu'on continue quand même à contester cette succession.
Alors on ne sait pas si on continue, mais le fait d'assassiner son père est très clairement une marque de contestation, soit de la légitimité d'Amenemhat Ier, soit de la légitimité de Sésostris Ier. Et il va tout faire, et pendant les 45 années de son règne, c'est presque son motto de dire « je suis légitime sur le trône de Pharaon et je m'y emploie à le démontrer par tous les moyens ».
On va voir quelques-uns de ces moyens. Est-ce que ça pourrait être aussi une revanche des représentants de la 11e dynastie ?
C'est absolument pas à exclure, c'est tout à fait possible. Rien n'indique que Amenemhat Ier a pris le pouvoir de manière sanglante, a fait assassiner ou a usurpé le pouvoir à la suite de Mondouhotep IV. Mais en même temps, rien ne dit le contraire non plus.
Alors, vous le disiez, donc, Sésostris Ier va mettre plusieurs années à imposer de nouveau son autorité. Une de ses manières, c'est de rendre hommage à son père, c'est ça ?
Très clairement. En Égypte ancienne, et pas forcément pour ce règne uniquement, honorer son père, c'est véritablement s'assurer sa place sur le trône de son père. Horus, le dieu Horus, vénère son propre père, le dieu Osiris, mort, et c'est un schéma tout à fait classique. Pour accéder au trône, il faut avant tout s'occuper des funérailles de son père.
De quelle manière ? En construisant, par exemple, des pyramides, enfin des tombeaux, etc. ?
On sait qu'en plus, dans le cas précis, c'est Sésostris Ier qui parachève l'ensemble du complexe funéraire de son propre père. Donc, très clairement, il semble impliqué, peut-être plus que de manière topique, impliqué physiquement, réellement, dans la finition du complexe de son père.
Et on voit bien, à travers les documents que l'on possède, et puis le travail des historiens, des archéologues, qu'au fond, ces souverains s'inscrivent. Écrivent l'histoire. On voit comment ils écrivent l'histoire, ils s'inscrivent dans cette histoire.
En tout cas, ils sont ceux qui ont la maîtrise de ce qui va être dit et conservé de leur propre règne. Donc, d'une certaine manière, ils écrivent l'histoire, ils font écrire l'histoire, en tout cas, comme eux entendent qu'elle soit écrite.
La mention d'un nom sur une plaque, enfin sur un tombeau, par exemple, c'est extrêmement important. C'est leur volonté, ça.
C'est tout à fait fondamental. Un personnage se définit par plusieurs aspects, dont son nom. Le fait d'effacer le nom d'un personnage est quelque chose de très très grave. On sait par exemple que Akhenaton fait marteler le nom d'Amon. C'est une manière de nier l'existence d'Amon. Et c'est pareil pour les êtres humains.
Alors, est-ce que cet événement, donc l'assassinat d'Amenemhat Ier, on parlait de répercussions au sein de la population tout à l'heure, est-ce qu'il a été beaucoup commenté ? Est-ce que ça a été vécu comme un événement tragique ? Est-ce qu'on a été, que tout le monde était au courant de cela ?
Sans doute que les gens sont au courant, ne fût-ce que par le fait que Sésostris Ier monte sur le trône. On diffuse très largement le nom de couronnement du nouveau roi, et donc ça veut dire que les gens vont s'interroger sur les raisons de la mort du souverain. Maintenant, on ne possède pas de documents qui explicitent un tel est mort dans telle circonstance, et c'est donc un tel qui prend sa succession. Donc on n'a pas d'idée de comment cela a été annoncé officiellement à la population.
Alors le sort des comploteurs, on n'en sait pas grand-chose finalement.
Rien du tout, et c'est pas étonnant. C'est un tabou majeur que d'attenter à la vie de Pharaon, et c'est tout autant un tabou d'en parler. Et donc, on va tendance à garder ça sous le coude et mettre ça sous le tapis et l'oublier rapidement.
Parce que c'est quoi ? C'est un signe de faiblesse de la part de ce dieu vivant sur Terre, d'être assassiné ?
C'est en tout cas un élément de trouble extrêmement inquiétant pour le pouvoir pharaonique qui résiste à cette tentative d'assassinat ou à cet assassinat réel. Et donc, il vaut mieux ne pas en faire la publicité, c'est très clair.
Donc ça veut dire qu'à travers l'histoire, ça ne sera pas un événement qui va se transmettre à travers des écrits, etc. Sauf ceux qu'on a, les quelques-uns qu'on a retrouvés là.
Sauf ceux qu'on possède. Alors soit il y a eu plusieurs assassinats qui sont passés totalement sous silence, et donc ça peut être le reflet d'une volonté, soit en fait, c'est tellement grave que ça n'intervient que très très rarement.
Alors le deuxième donc avéré, c'est celui de Ramsès III. Qu'est-ce que l'on en sait là ? On a encore 3 minutes.
Alors ce que l'on en sait, eh bien c'est quelque chose de très intéressant. On a une toute autre forme de document. Ce sont des documents cette fois-ci judiciaires, et non pas des documents littéraires, qui impliquent d'autres formes d'approche de critique des sources. Et cette fois-ci, on a en gros une liste de châtiments pour l'ensemble des comploteurs. Et c'est très, très rigolo. Rigolo en tout cas pas pour eux, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on fait en sorte que ce ne soit pas un Égyptien qui tue le comploteur, mais on fait en sorte que le comploteur se donne lui-même la mort ou aille spontanément lui-même vers sa propre mort. Et par ailleurs, pour être bien sûr que ces personnes ne reviennent pas, comme les noms ont une importance, on l'a dit, Amenemhat, c'est Amon est en tête, eh bien on va changer les noms de toute une série de comploteurs. Et on a ainsi des personnages qui s'appellent, qui sont renommés Meset Souré, Ré le déteste. On a aussi des gens comme Pabak Amen, le serviteur aveugle, donc des noms qui sont tous sauf particulièrement favorable.
On a là une explication de ce complot, de ce meurtre, de cet assassinat sur Ramsès III. Là aussi,
c'est aussi des circonstances liées à la volonté d'une branche installé dans le harem, de vouloir installer un autre prince à la succession de Ramsès III, et de nouveau, ça échoue.
Alors, il faut aussi, on l'a fait au début de cet entretien, David Laurent, insister donc sur la précaution dont il faut se prémunir pour lire toutes ces sources que l'on a à notre disposition. On raconte les histoires, effectivement, aujourd'hui, comme si c'était une histoire de détective ou une histoire policière. Finalement, on ne sait pas grand-chose.
Non, on sait en fait vraiment très peu de choses, et les documents qui nous sont parvenus sont essentiellement ceux voulu par le pouvoir en place, donc très orienté, et par ailleurs sont destinés à une population qui globalement ne sait presque pas lire. Seuls 2% en moyenne des gens en Égypte savent lire. Donc l'ensemble de cette documentation littéraire ou non est très très peu accessible aux gens, et donc on est dans un cercle fermé de gens qui se connaissent et qui s'auto-influencent entre eux.
Votre travail à vous, c'est quoi ? C'est aujourd'hui de réinterroger sans cesse et de confronter votre interprétation à celle de confrères ?
C'est vraiment ça. Le but, c'est de vérifier ce que l'on peut véritablement tiré de chacune des informations, et l'on progresse de jour en jour en comprenant mieux la grammaire, en comprenant mieux l'archéologie, en ayant de nouvelles découvertes. Donc c'est une remise en cause perpétuelle de ce que l'on sait.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'un jour on peut arriver avec une histoire qui est complètement différente, ou quand même on a de bonnes indications ?
On a généralement les lignes directrices qui ne changent peu, mais les améliorations se font dans les détails, et ces détails sont plus ou moins amples, mais on améliore chaque jour notre connaissance du détail.
Eh ben, vous viendrez nous faire état de ces améliorations sur notamment cette page sombre de l'Égypte ancienne, l'assassinat des pharaons. David Laurent, donc collaborateur scientifique à l'ULB, et puis à l'IFAO, qui est l'Institut français d'archéologie orientale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.